Chapitre 3e. L'inventaire dressé par M. Griolet lui-même, qui ne manqua pas une seule vacation et se présenta toujours en parfait notaire, donna les résultats prévus. Le passif absorbait l'actif. S'il restait quelque chose à Hélène, la vente du mobilier faite, ce serait quelques centaines de francs ou plus. Et encore, cela n'était-il pas certain? Peut-on estimer à l'avance d'une façon précise le produit d'une vente mobilière? Hélène n'avait pas attendu cette vente pour chercher à réaliser son idée de travail. Il fallait que le jour où sa grand-mère et elle sortiraient du collège, elles eussent quelque part où aller et des ressources, si faibles qu'elles fussent, pour ne pas mourir de faim. Longuement, dans ses nuits sans sommeil, alors que dès le soir elle se réveillait en sursaut, croyant entendre la voix de son père qui l'appelait, elle avait agité la résolution qu'elle devait prendre. Devait-elle entrer dans une maison particulière comme institutrice, ou bien comme sous-maîtresse dans une pension, ou bien se ferait-elle maîtresse d'école? Seule, elle fut entrée dans une famille ou dans un pensionnat, car elle était écrasée par le coup qui l'avait frappée, et elle eut trouvé ainsi un certain repos, au moins une tranquillité relative en ce qui touche les embarras et les difficultés de la vie. Bien certainement, ce n'eût point été là une existence agréable, ni douce pour elle, mais le temps n'était plus où elle pouvait espérer l'agréable. Il était passé. Elle l'avait eu auprès de son père, si attentif, si prévenant pour tout ce qui pouvait la rendre heureuse ou lui faire plaisir. Maintenant, pourvu qu'elle n'eût pas le pire, elle devait être satisfaite et ne pas se plaindre. Mais elle n'était pas seule. Elle avait sa grand-mère. Que ferait la pauvre femme pendant qu'elle-même serait dans une famille ou dans une pension? D'ailleurs, gagnerait-elle assez, institutrice ou sous-maîtresse, pour que sa grand-mère pût vivre avec ce qu'elle lui abandonnerait? Tandis que maîtresse d'école dans un village, elle prenait sa grand-mère avec elle, et elles vivaient toutes deux ensemble. Elle était habituée aux privations, la pauvre grand-mère, si rudement menée par la tante Toucha, et quant à elle, si doucement traitée, si dorlotée jusqu'à ce jour, elle s'y habituerait aussi. Cependant, si bonne que lui parussent ses raisons déterminantes pour se faire maîtresse d'école, elle ne voulut pas prendre une résolution aussi grave sans avoir consulté quelques personnes. Et puis, comment obtenir cette nomination de maîtresse d'école? Elle n'en savait rien. À qui s'adresser? Quel titre faire valoir? Le nombre des personnes qu'elle pouvait consulter était assez restreint, car elle ne connaissait pas, ou tout au moins, elle ne connaissait que très peu les anciens camarades que son père avait retrouvés à Condé. Celui qu'elle consulta fut un professeur du collège, non Radou, qui ne l'avait pas abordé depuis l'enterrement, se sauvant, au contraire, au plus vite, la tête basse et le dos voûté aussitôt qu'il l'apercevait, mais un vieux collègue de Radou, qui, si elle le connaissait beaucoup moins que celui-ci, lui inspirait cependant plus confiance. La fille d'un principal maîtresse d'école. Le père Bonjean poussa les hauts cris, mais le premier mouvement de la surprise passé, il déclara qu'elle prenait un sage parti, et puisqu'elle était obligée de travailler, il n'y avait rien de mieux pour elle, dans les circonstances où elle se trouvait, que de se faire maîtresse d'école. C'était courageux, c'était digne, et puis d'autre part, ce n'était pas une mauvaise affaire, l'avenir était à l'instruction primaire. Si bien résolue que fut Hélène, elle avait cependant besoin d'être soutenue et encouragée. Ce conseil l'arracha à ses hésitations. Mais ce n'était pas tout de savoir ce qu'elle voulait faire, il fallait pouvoir le faire. C'est l'administration qui nomme les institutrices primaires. Pour cela encore, elle trouva un appui auprès du professeur qui l'avait approuvé et qui voulut bien voir pour elle l'inspecteur. On doit bien quelque chose à la fille d'un homme comme M. Marguerite, et sûrement l'administration sera heureuse de vous payer cette dette. Je vous dirai demain ce que m'a répondu M. Malattiré. Ce fut une douce parole pour Hélène. Son père dans la tombe la protégeait encore, et elle se prit à espérer. Ce n'était point une bonne place qu'elle demanderait. Celle qu'on lui donnerait, si petite qu'elle fût, la contenterait, pourvu qu'elle les fît vivre, sa grand-mère et elle. Mais les choses ne marchèrent point avec la rapidité qu'elle désirait, et qui pour elle était une condition même d'existence. Tout d'abord, l'inspecteur demanda à la voir, et quand elle se rendit chez lui, accompagnée du père Bonjean qui la présentait, ce ne fut point une promesse qu'il lui donna, ce furent des conseils. C'était un homme timide et craintif que M. Malattiré, qui semblait avoir vécu dans une suggestion où il avait perdu toute indépendance de pensée et toute initiative. Le fond de sa phraséologie vide et vague consistait en deux formules qui revenaient à chaque instant, si j'ose m'exprimer ainsi, et, dans une certaine mesure, auxquelles il ajoutait de temps en temps jusqu'à un certain point. Puis aussitôt qu'il avait dit blanc, il disait noir, et s'il fallait absolument qu'il s'arrêtât à quelque chose, ce n'était ni à noir ni à blanc, mais à gris. Et encore, cela le rendait-il très malheureux, préférant évidemment ne pas s'engager. Ce fut justement ce qu'il fit avec Hélène. « Certainement, je serais très heureux de faire quelque chose pour la fille, d'un homme aussi distingué, aussi méritant que M. Marguerite. Mais nous pouvons si peu, nous autres, si j'ose m'exprimer ainsi. Sans doute, je peux vous présenter, et je le ferai, car on a égard à notre présentation, au moins dans une certaine mesure, et jusqu'à un certain point. Mais il m'est impossible de vous donner l'assurance certaine que vous serez nommé comme vous le désirez, surtout avec la rapidité que vous désirez. Ce n'est pas l'habitude de l'administration de procéder vite. Il y a des délais. Mon Dieu, ils sont nécessaires. Je le reconnais moi-même, et vous comprenez bien, n'est-ce pas, que je ne blâme pas l'administration. Loin de moi cette pensée. Mais alors, dit le professeur, alors il faudrait que mademoiselle eût quelque protecteur influent qui s'occupât de son affaire. Je n'ai personne, pas plus que je n'ai de droit, dit Hélène tristement. Je n'ai à faire valoir, comme je n'ai pour me protéger, que le nom de mon père. C'est beaucoup, sans doute, c'est beaucoup. Mais en réalité, ce n'est rien, ou plutôt, ce n'est pas tout à fait suffisant. Non, ce qu'il faudrait, ce serait quelqu'un en position d'agir et de parler. Mon Dieu, je n'ai pas de conseil à donner à mademoiselle, je ne me le permettrai pas. Je vous en prie, monsieur, dit Hélène. Eh bien, si j'étais à la place de mademoiselle, voici ce que je ferais. « Bien entendu, je ne veux pas peser sur vos résolutions, et d'autre part, je n'ai pas la prétention de dire que l'idée que j'aimais, sans l'émettre, soit la meilleure. Cependant, je ferai ceci. J'irai trouver M. le comte Prêt-à-Voine et je lui demanderai de m'appuyer. Connaissez-vous M. le comte Prêt-à-Voine ? Non. Cela ne fait rien, ou plutôt, si, cela fait beaucoup. Enfin, il serait mieux que vous le connussiez. Mais bien que ne le connaissant pas, vous pouvez vous adresser à lui. » Il est conseiller général de notre ville, et à ce titre, il met volontiers, c'est-à-dire quand ça ne le gêne pas, son influence à notre disposition. Elle est très puissante, cette influence. Car bien qu'il ne soit plus député, ayant été remplacé par M. Méraud, il fait la pluie et le beau temps à la préfecture, chez le préfet aussi bien que dans les bureaux, comme il l'est fait à l'évêché, et partout. Créé comte du pape, allié à la famille la plus noble du pays, par son mariage, avec mademoiselle de la Rochaudon, riche par sa mère, il peut tout. S'il veut votre nomination, il l'obtiendra. S'il ne la veut pas, il l'empêchera. J'irai, dit Hélène. Maintenant, continua l'inspecteur, si j'étais vous, je verrai aussi M. Louis Méraud, notre député. Mais bien entendu sans que M. le comte Prêt-à-Voine le sache, car en pareilles circonstances, il faut, si j'ose m'exprimer ainsi, manœuvrer. Monsieur le comte Prêt-à-Voine, c'est le parti clérical. Monsieur Louis Méraud, c'est le parti républicain. Qui peut dire lequel des deux sera demain au pouvoir? Le mieux est donc d'être bien avec les deux. Seulement, il faut tâcher de ne se compromettre ni avec l'un ni avec l'autre, de manière à se retourner. Si c'est monsieur le comte Prêt-à-Voine qui a l'influence du moment, il vous fera nommer. Si c'est monsieur Louis Méraud, ce sera monsieur Méraud. Que vous importe l'un ou l'autre, le clérical ou le républicain. Vous n'avez pas de parti, n'est-ce pas? Ce que vous voulez, c'est vivre en travaillant. Ah, c'est un grand malheur que la politique vienne se mêler de nos affaires. Pourquoi ne nous laisse-t-elle pas tranquilles? Ah, les opinions! Et cet homme timide, même dans ses mouvements, leva le bras au ciel par un geste énergique qui attestait de longues années d'oppression. Le malheur est, dit le père Bonjean, qu'on en a toujours une. Mais non, ou plutôt si. Enfin, le mieux est peut-être d'en avoir plusieurs. Pour revenir à ce qui touche mademoiselle, je dois la prévenir que M. le comte Prêt-à-Voine est en ce moment au château de Rouvray. Quant à M. Méraud, il est à la chambre à Paris, et je ne sais pas s'il doit venir prochainement à Condé.